Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc assez fascinant. Les grands modèles de langage, les LLMs, bon, ils sont incroyables pour le texte, mais dès qu'on parle de raisonnement logique un peu poussé, bah, ça coince encore pas mal. On a l'impression qu'ils pensent surtout en mots.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est le point de départ de la recherche qu'on analyse aujourd'hui. L'idée derrière, c'est... Et si les LLM pouvaient, un peu comme nous, utiliser différentes manières de réfléchir? Pas juste le langage, mais aussi la logique du code, ou même quelque chose de plus symbolique, de plus formel.
Et c'est là qu'intervient ce concept de « mixture of thought », le MOT, proposé dans l'article. Alors notre mission aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça marche, cette méthode, pourquoi mélanger ces différentes façons de penser, et surtout, est-ce que ça rend vraiment les IA plus logiques?
Tout à fait.
Commençons peut-être par le problème de base. Pourquoi le langage naturel seul, ça ne suffit pas toujours pour le raisonnement complexe?
L'article met le doigt sur des erreurs qui reviennent tout le temps. D'ailleurs, ils ont un graphique, la figure 1C, qui montre bien ça. En gros, ça représente une grosse partie des fautes. Il y a par exemple le fait d'oublier des scénarios possibles, ce qu'ils appellent les « missing branches », ou alors faire des déductions un peu bancales. Genre si on sait que A implique B, on croit à tort que non A implique non B. Ça, c'est l'erreur invalide converse. Le langage, il est souple, c'est sa force, mais parfois il manque de cette rigueur, quoi.
Oui, je vois, c'est moins carré. Le langage peut être interprété de plein de façons. Alors, comment le Mixture of Thought essaye de régler ça? L'idée, c'est d'entraîner le même LLM à utiliser trois approches différentes. C'est bien ça?
C'est ça. C'est le cœur du système. Au lieu d'une seule voix, le modèle apprend à en maîtriser trois. La première, ça reste le langage naturel, un peu comme le chain of thought, où le modèle explique ses étapes verbalement.
D'accord.
La deuxième, elle s'inspire du code. Le problème est comme traduit en logique de programmation, souvent en Python. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'exécuter ce code. C'est juste la structure, la logique du code qui aide le modèle à raisonner.
Ah oui, c'est contre-intuitif que l'exécution ne soit pas nécessaire. Et la troisième, alors, la table de vérité. Ça a l'air d'être la vraie nouveauté pour justement contrer les faiblesses du langage, non?
Exactement. C'est une méthode très structurée, très formelle. En gros, elle oblige le modèle à lister toutes les combinaisons logiques. Par exemple, K1, A vrai, B faux, K2, A faux, B vrai, et ainsi de suite. Puis, il élimine les cas qui ne collent pas avec l'effet geek problème. C'est très mécanique et ça évite justement d'oublier des branches ou de faire des sauts logiques un peu rapides.
Je vois, ça impose une sorte de discipline mentale, quoi, que le langage seul n'a pas forcément. Et l'article, il insiste beaucoup sur le fait que ces trois méthodes sont complémentaires, n'est-ce pas? Si on regarde les figures 1.1 et 1.B, on a l'impression que chacune résout des trucs que les autres ne peuvent pas et que l'ensemble est plus fort.
Oui, et c'est crucial, c'est pour ça qu'ils appellent ça « mixture of thought ». Le mélange des trois couvre beaucoup plus de problèmes logiques. Ils montent jusqu'à 85% dans leurs tests. C'est bien mieux que n'importe laquelle des méthodes prises isolément ou même une combinaison de deux.
D'accord. Bon, sur le papier, c'est convaincant. Mais comment on apprend ça à un modèle? L'article parle d'un entraînement auto-évolutif. Il y a une figure 2 qui l'illustre. Ça veut dire quoi, concrètement?
Alors, c'est un processus assez malin. Le modèle commence par essayer de résoudre des problèmes en utilisant les trois formats. Langage, code, table de vérité. Ensuite, il a une étape de filtrage. On ne garde que les raisonnements qui sont corrects et bien écrits dans chaque style. Et le point clé, c'est qu'on réentraîne ensuite le modèle avec ses bons exemples qu'il a lui-même produits. C'est un cycle. Il génère, on filtre, il apprend de ses succès. C'est ça qu'ils appellent « on policy ». Il apprend à partir de sa propre stratégie. Il s'améliore au fur et à mesure.
Malin. Il apprend en se regardant faire, en quelque sorte. Ok. Et une fois qu'il est entraîné, comment il fait pour donner la réponse finale à une nouvelle question?
C'est assez simple. Pour un nouveau problème, il génère une solution avec chaque mode de pensée. Donc une réponse via le langage, une via le code, une via la table de vérité. Et la réponse finale, eh bien c'est un vote majoritaire. Si deux modes disent réponse A et un dit réponse B, alors la réponse finale sera A.
Simple, mais sans doute efficace. Et les résultats alors? Est-ce que ça marche en pratique? Le tableau 2 montre des gains assez nets, non?
Oui, les performances sont vraiment améliorées. L'étude rapporte des gains qui vont jusqu'à 11,7 points de pourcentage en précision. C'est mesuré sur des benchmarks logiques assez connus et réputés difficiles, comme Folio et Proofwriter. Donc oui, ça fait une vraie différence.
Et ce qui m'a frappé aussi, c'est cette histoire d'efficacité. Un modèle MOTI de seulement 9 milliards de paramètres qui arrive à faire aussi bien que GPT-4 combiné à un outil externe sur Foliate. Pour un modèle beaucoup plus petit, c'est quand même remarquable.
Absolument, ça ouvre des perspectives intéressantes. On pourrait avoir un raisonnement logique de haut niveau sur des modèles plus légers, plus accessibles. Et d'ailleurs, le tableau 3 et la figure 5, ils confirment bien que cet entraînement mixte sur les trois modalités, c'est plus efficace que de spécialiser le modèle sur une seule ou même que de lui donner des exemples venant d'un modèle plus gros.
Et on voit aussi, je crois que c'est la figure 4, que l'avantage de Moti est encore plus marqué quand les problèmes deviennent vraiment complexes, ce qui demande plusieurs étapes de raisonnement.
C'est tout à fait ça. Plus le problème est ardu, plus le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, si on veut, semble payer. Et l'analyse des erreurs le montre bien. La table de vérité, par exemple, elle dead pile là où le langage naturel avait du mal au départ.
Donc si on essaye de résumer un peu, le mixture of thought, c'est une façon de donner aux LLMs une sorte de flexibilité cognitive, en les entraînant à jongler entre le langage, la structure du code et la logique formelle des tables de vérité.
C'est une bonne synthèse, oui.
Et le résultat, c'est de meilleures performances en logique, surtout quand ça devient compliqué.
Exactement. Et la portée, potentiellement, c'est de démocratiser un peu l'accès à une IA qui raisonne de façon plus fiable, plus sophistiquée, sans forcément avoir besoin des modèles les plus énormes et les plus coûteux.
Une démocratisation qui serait bienvenue, Fufur. Ce qui nous amène peut-être à la question pour la fin, si mélanger ces différentes formes de pensée, logique, ça améliore autant les capacités de l'IA.
Où est-ce que ça nous mène ?
Oui.
On peut se demander, quelles autres capacités cognitives complexes ? On pense à la planification, la créativité, peut-être même une compréhension plus fine des émotions humaines. Quelles autres capacités pourrait-on débloquer si on intégrait encore d'autres façons de représenter l'information, d'autres types de raisonnement dans les IA de demain ?
Voilà une question qui laisse rêveur sur les prochaines étapes. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.